Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin, Sébastien de Courtois au micro de Chrétien d'Orient. Nous allons explorer ensemble, en compagnie de Raphaël Ziadeh, la très belle exposition qui se déroule à l'Institut du Monde Arabe en ce moment et jusqu'au 14 janvier prochain. Chrétien d'Orient, 2000 ans d'histoire. Mais avant cela, je voudrais prendre le temps d'évoquer pour quelques minutes la mémoire d'un grand monsieur de la télévision et de la radio qui nous a quittés le 12 juillet dernier à l'âge de 93 ans. Je veux parler de Jean-Pierre Anquiri. Un homme à qui je dois beaucoup puisque c'est lui qui m'a permis d'entrer à Radio France sur les ondes de France Culture, où j'ai pris sa succession à ce micro, devant vous, chers auditeurs, le 9 janvier 2011. Je m'en souviens comme si c'était hier, alors que notre rendez-vous dominical s'appelait encore « Foi et tradition des chrétiens orientaux ». Une émission qu'il avait portée sur les fonts baptismaux du service public au début des années 60, avec toute l'énergie de Gérard Stefanesco, alors producteur, qui avait réussi à ouvrir une double fenêtre médiatique, tant à la télévision sur ce qui deviendra France 2 que sur France Culture. Émission dédiée à l'histoire et à la spiritualité des églises d'Orient. Ceci dans toute leur diversité, à une époque où l'on commençait à peine à s'intéresser à ces sujets, à ces communautés éparpillées aux quatre coins du Proche-Orient. Des communautés qui étaient alors peu connues, en dehors des cénacles avertis du monde des historiens, des archéologues et des descendants exilés de ces Arméniens, Grecs, Syriaques, Coptes ou Maronites installés chez nous selon les aléas d'une histoire récente, souvent tragique et conflictuelle. Jean-Pierre Anquiri conduisait les émissions, dénichait des invités, experts et passionnés, établissant des relations dans le domaine de l'unité des églises chrétiennes et sortant les orientaux de leur placard. Il y avait dans sa démarche journalistique une véritable volonté de rendre accessible à un large public la parole des chrétiens, en traitant leur passé prestigieux mais aussi leur présent. Un présent qui faisait vibrer cet homme passionné par la chose publique, par la politique d'abord, où en tant que grand reporter il suivait régulièrement, entre beaucoup d'autres personnages, le général de Gaulle dans ses voyages, personnage pour lequel il avait une grande admiration, depuis une jeunesse égyptienne où le tout jeune homme qu'il était encore suivait avec ferveur les avancées de la France libre. Une passion qu'il mettait en œuvre dans chacune de ses collaborations, que ce soit avec FR3, alors où il animait le journal du soir, lui qui avait assisté à la naissance de la télévision. Il était toujours en recherche d'objectivité et du travail en profondeur, croisant et recroisant ses sources. Avec un refus constant du scoop, comme de l'idée même de se mettre en avant. Une longue carrière qu'il a dédiée au service de l'information, de la bonne information, celle qui élève et qui permet de comprendre le monde et les autres, non celle qui écrase et inflige une vision partisane. Lorsque je le voyais, je pensais à l'idéal des Lumières, celui d'un honnête homme, habité par une mission, un artisan du présent, agissant avec modestie et certitude. J'ai appris la tolérance à ses côtés. Un homme qui m'a mis le pied à l'étrier de nombreuses fois, à qui je suis reconnaissant de m'avoir invité alors que j'étais encore étudiant en histoire contemporaine à l'école des hautes études, pour un article, un livre, un retour de voyage, et de m'avoir fait ainsi comprendre que le savoir, quel qu'il soit, est une valeur qui se doit d'être partagée. C'est ce que j'essaye à mon tour de faire en invitant des jeunes doctorants, en diversifiant la liste de nos invités, pour donner la parole à tous dans la mesure de nos moyens. Il m'a appris la ténacité. Jean-Pierre Anquiri était un passeur. Il était né au Caire en février 1924, dans une famille libanaise installée en Égypte, à une époque où les frontières n'existaient pas et où l'Orient était synonyme de souplesse et de diversité. Ses obsèques ont eu lieu dans l'église maronite de Notre-Dame du Liban, à Paris, au cœur de l'été, le 24 juillet 2017, dans l'intimité familiale. Merci d'avoir ce matin une prière pour lui, pour Jean-Pierre Anquiri. Nous pensons très affectueusement à sa famille Evelyne, Michel, François et Océane, un homme que j'ai profondément aimé et qui nous a tant apporté. Raphaël Ziadé, bonjour.
Bonjour.
Alors nous allons nous transporter au temps présent et plus précisément dans le bâtiment de l'Institut du Monde Arabe où une exposition que je dois dire stupéfiante est en train d'être présentée. Et donc nous parlions du 14 janvier tout à l'heure comme date de fermeture. Donc il faut vraiment se précipiter pour y aller. Alors vous êtes commissaire de cette exposition, tâche je crois que vous avez partagée avec d'autres de vos confrères. Quelle était l'initiative de cette exposition? Comment est-elle née?
Cette exposition est née d'une longue réflexion, de plusieurs intérêts croisés pour le christianisme oriental et l'actualité difficile qu'ont connu ces chrétiens à partir de 2014 et même avant, mais enfin en particulier à partir de 2014, je pense, à favoriser une prise de conscience en France. Il était temps de consacrer une grande exposition à la culture chrétienne du Proche-Orient, menacée en tout cas dans ses habitants et parfois dans son patrimoine à l'heure actuelle.
Alors 2014, c'est la prise de Mossoul par les forces au drapeau noir. On ne va même pas dire leur nom, ce serait trop leur faire honneur. Donc on rentre un petit peu dans cette conscience finalement qui est un christianisme, qui a une part de ce christianisme dit oriental qui est en danger. Et les institutions chez nous prennent conscience de cet état de fait, parce que j'ai vu qu'il y avait un partenariat avec l'œuvre d'Orient par exemple qui est...
Oui, vous savez, un grand projet comme ça, c'est un peu l'alignement des astres pour qu'il voit le jour. Donc c'est la conjonction de plusieurs volontés, de plusieurs compétences. Des compétences scientifiques d'abord, on a en France beaucoup de chercheurs, des équipes d'archéologues qui connaissent bien ces questions. Une institution qui a souhaité porter le projet et qui l'a financé, qui est l'Institut du Monde Arabe. Et je crois qu'il faut rendre hommage à cet institut qui est la première à dire que le monde arabe ne se superpose pas à l'islam, mais que ce monde arabe est empreint d'une vraie diversité et les chrétiens en font partie. Ce qui est assez peu connu en Occident finalement, on a oublié que les racines du christianisme sont en Orient et qu'il y a encore là-bas des populations qui remontent aux origines même des premières communautés chrétiennes.
J'aimerais savoir un petit peu comment les objets ont été choisis, parce qu'ils sont tous uniques par définition et exceptionnels.
Alors nous avons choisi de présenter l'histoire des chrétiens du monde arabe depuis les origines et de montrer comment cette culture chrétienne du Proche-Orient est originelle, comment elle est pérenne et comment elle est encore vivante. Alors, c'est d'abord le choix d'un parcours chronologique. Nous montrons les débuts du christianisme dans l'Antiquité tardive, la continuation de cette histoire à partir du moment où la conquête islamique place ces populations sous domination musulmane, leur vie sous l'Empire ottoman et également montrer qui ils sont aujourd'hui. Et donc on a un parcours qui évolue dans le temps, le choix des œuvres évolue, on a des trésors pour l'Antiquité et pour le Moyen-Âge, encore beaucoup de trésors pour la période ottomane, mais pour la période contemporaine c'est plutôt des portraits, des films, des archives, donc une grande diversité de supports, mais en tout cas à chaque fois une volonté de montrer ce qu'il y a de plus beau, de ce qu'il y a de plus intéressant, de ce qui est inédit, pour que justement ce soit cette floraison d'images, de richesse intellectuelle, de vitalité qui soit perçue par le visiteur.
Alors je me dois de vous demander vos préférences peut-être pour certains objets, parce que c'est vrai qu'il y a des pièces uniques, je crois, qui sont montrées pour la première fois au public.
Oui, alors il y a vraiment des chefs-d'œuvre montrés pour la première fois, jamais prêtés par les uns ou par les autres. Alors je crois que la pièce la plus exceptionnelle par son ancienneté, ce sont les fresques de Doura Europos, qui viennent de la maison d'église, cette maison privée de cette ville qui est située sur les bords de l'Euphrate en Syrie et dont les fresques ont été transportées à l'université de Yale car elles ont été découvertes lors d'une fouille franco-américaine dans les années 1910-1920. Et l'université de Yale a hérité des fresques de la maison d'église, donc la partie américaine, et la partie française, elle, a eu les fresques de la synagogue qui ont été retrouvées juste à côté. Et comme nous étions à l'époque du mandat, ces fresques de la synagogue ont été déposées à Damas et le musée de Damas s'est construit autour. Alors, ces fresques, il faut le dire, sont de, pour la maison d'église, de l'année 232.
La plus ancienne pièce de l'histoire du christianisme.
C'est la plus ancienne église quasiment que l'on connaisse et ce sont en tout cas les plus anciennes fresques de l'histoire de l'art chrétien. Et on y voit tout un cycle de la vie du Christ et nous montrons dans l'exposition deux fragments de ces fresques, enfin deux panneaux. L'un qui représente le Christ guérissant le paralytique et l'autre montrant la pêche miraculeuse et le Christ marchant sur les eaux. Et là, nous sommes au tout début de l'image chrétienne et nous touchons quasiment aux premières communautés.
Quelle a été votre émotion quand vous avez vu cette pièce arriver ?
Alors, c'est indescriptible. Quand on a ouvert les caisses, j'ai vu ces fresques que je ne connaissais qu'en photo. Elles étaient infiniment plus belles que sur toutes les reproductions. Il faut dire qu'elles ont été restaurées dans les années 2000. Et c'est la première fois que Yale s'en sépare et les prête pour ce grand événement qu'est l'exposition de Lima.
On la voit, il y a beaucoup de monde qui s'arrête devant elle. Les gens ont conscience de cette particularité ?
Oui, d'abord à cause de la date, 232, c'est une date qui interpelle le visiteur, et aussi parce qu'elles sont émouvantes par leur naïveté, je dirais. C'est un dessin extrêmement simple, où vous et moi, on aurait presque pu tracer cette image du Christ marchant sur les eaux. C'est la trace des hommes assez simples qui habitaient dans cette église et qui ont voulu dessiner le visage du Christ. Et c'est assez frappant de voir que la synagogue à côté, qui a elle également un cycle de fresques complet tiré de l'Ancien Testament, daté elle de 245, est beaucoup plus riche. La communauté juive était beaucoup plus riche que la communauté chrétienne et on sent cette pauvreté de cette première communauté dans ces fresques.
On le sent aussi sur la texture même des matériaux qui ont été utilisés. Le plâtre est un peu rustique, on sent qu'il a été peut-être étalé avec les mains.
Exactement, on voit le tracé des mains de l'ouvrier qui a appliqué l'enduit qui permet après de peindre. Et oui, on est vraiment en contact avec les gens qui ont habité cette maison qui était cachée car on était encore à l'époque des persécutions.
Nous sommes sur France Culture dans Chrétien d'Orient, l'exposition Chrétien d'Orient, 2000 ans d'histoire, avec Raphaël Ziadé ce matin. 300 œuvres d'un riche patrimoine, des pièces exceptionnelles. Nous étions à Doura Europos, donc cette ville du désert syrien qui a été découverte dans les années 20 et dont pour la première fois cette pièce a voyagé. Qu'est-ce qu'on pourrait évoquer comme autre objet ? Je pense à ces manuscrits par exemple, à ces textes en syriaque qui vient d'une bibliothèque de Florence, je crois.
Oui, il y a dans l'exposition un document qui est un statut mythique, les évangiles de Raboula. Il s'agit d'une Bible en syriaque, entièrement illustrée, qui date de 586. On a la date à la fin du manuscrit. Et on a dans cet évangile, par exemple, la première image de la résurrection que l'on connaisse dans un document syriaque. Et également une scène de la crucifixion avec le Christ en croix, habillé sur la croix, qui est la manière orientale de représenter le Christ. Et les illustrations sont en pleine page, elles sont magnifiquement colorées, avec beaucoup de mouvements. L'hellénisme, le mouvement qu'on avait dans la tradition hellénistique est encore présent. On est loin de ce que Byzance va montrer en situation frontale, en posture figée. C'est un autre style, un style issu de l'Antiquité qui est encore perceptible dans ce manuscrit. Il a longtemps séjourné chez les Maronites, au Patriarcat, à Canoubine, à l'époque médiévale, et il a été cédé au duc de Médicis. Et il entre à la bibliothèque qui est maintenant la Laurentienne, au milieu du XIVe siècle.
En fait, cette période permet de comprendre un petit peu comment cet art qui existait de fait se christianise d'une certaine manière.
Oui, c'est tout un monde d'images que nous avons rassemblées dans l'exposition, dans la première section consacrée à l'Antiquité. On pensait globalement que les trois premiers siècles du christianisme avaient assez peu d'images, que ces trois premiers siècles étaient frappés par l'interdiction de représenter le divin patriarche du judaïsme.
Le fameux commandement de l'Ancien Testament.
Voilà, le deuxième commandement. Mais en fait, la découverte de Doura Oropos a complètement bouleversé cette vision, puisqu'on a à la fois un cycle complet dans la maison d'église et aussi dans le monde juif. Alors, on se demande comment ce monde d'image est né. Il y a eu des hypothèses. On pense que les artistes ont peut-être eu en main des bibles illustrées dès le 2e ou le 3e siècle. On ne possède plus ces exemplaires, mais dans l'exposition, on peut voir les plus anciens que l'on connaisse, qui sont du 5e et du 6e, donc cet évangile de Raboula, mais aussi le codex Sinopensis prêté par la Bibliothèque nationale, un magnifique évangile de Matthieu, peint en or sur un parchemin de pourpre, avec là aussi de magnifiques miniatures. On présente la page avec la guérison de Jésus guérissant l'aveugle à Jéricho.
Un dernier objet dont j'aimerais que nous évoquions, c'est dans cette partie ancienne, cette partie historique de l'exposition, parce que comme vous l'avez dit, elle s'étend jusqu'au contemporain, c'est cette très belle icône montrant Marie l'Égyptienne.
Oui, on a toute une série d'icônes peintes en Orient, puisque toutes les œuvres de l'exposition sont issues de cette terre du Proche-Orient. Il s'agit d'icônes peintes à Alep, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, cette grande école d'icônes à l'épine. Marie l'Égyptienne est une figure féminine, il faut le souligner, dans ce monde souvent représenté par les hommes. Il s'agit d'une sainte, une prostituée d'Alexandrie du 5e siècle qui s'est convertie en rentrant dans l'église de la Résurrection, c'est-à-dire le Saint-Sépulcre à Jérusalem. Elle a été foudroyée par la Révélation et à partir de là, elle a décidé de vivre toute sa vie au désert, dans le désert de Judée, en Palestine, où elle a vécu 40 ans. Et elle est figurée dans cette très belle icône, dans son état d'ermite.
On peut se souvenir aussi du très beau livre de Jacques Lacarrière qui évoquait le parcours de Marie l'Égyptienne. Passons au contemporain maintenant. Donc, ce qui est vraiment étonnant dans cette exposition, c'est la transition dans cette chronologie. Donc, il y a des photographies qui montrent ces communautés chrétiennes dans le monde arabe aujourd'hui. Il y a des films, il y a des vidéos. On voit le présent. Qu'est-ce qui vous a permis de faire ça, en fait? Parce que traditionnellement, les expositions, c'est très limité dans le temps. D'où vient cette idée?
Alors ça, c'est une volonté personnelle qui a été entièrement partagée par l'Institut du Monde Arabe et le Comité Scientifique. En général, comme vous le dites, les expositions de civilisation s'arrêtent au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, parce que les œuvres s'appauvrissent. Mais là, étant donné la situation et la grande question politique qui se pose, quel est le devenir de ces personnes? Que va-t-il se passer au Moyen-Orient? Nous n'avons pas voulu éluder l'actualité et nous avons donné une présence à tous ces chrétiens du Proche-Orient, du Liban, de Syrie, d'Irak, de Jordanie, d'Égypte, par tout un traitement photographique dans l'exposition. Ils sont là parmi nous pour accompagner le visiteur dans la fin de la visite. Et nous avons aussi donné la parole à des artistes issus du Proche-Orient. J'ai demandé par exemple à Marie Sera de bien vouloir remontrer ces images de 1995 sur Alep, sachant qu'Alep maintenant est presque totalement détruite. Donc ces images ont énormément de valeur, elles sont dans l'exposition. On y voit Marie Sera qui guide sa fille dans cette ville qui est la sienne puisqu'elle est née à Alep. On voit aussi, j'y tenais beaucoup, un livre de Wajdi Mouawad sur Beyrouth avec des photos de basilicaux qui montrent Beyrouth en ruine. Le Beyrouth détruit par la guerre civile qui a impliqué les chrétiens. Hein. C'est une guerre aussi confessionnelle, même si elle a eu d'autres raisons d'exister. Des artistes et des visages pour nous parler de l'époque d'aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs pour les encourager à venir, en famille peut-être, de faire venir du monde?
Alors justement, je crois que la diversité des supports, les trésors qui peuvent éblouir toutes les générations, mais aussi les films, les traitements photographiques très contemporains, font que chacun peut s'y retrouver et que la visite se renouvelle de salle en salle. On va vraiment de surprise en surprise et surtout, je crois qu'on est ébloui par la richesse de cette culture chrétienne du Proche-Orient qui est là depuis les origines du christianisme et qui est toujours vivante. Moi, personnellement, je crois à sa pérennité et j'espère que l'histoire nous donnera raison.
On va apporter une petite précision, peut-être historique, sinon géographique, c'est que ce monde, cette exposition est sur les chrétiens dans le monde arabe. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres chrétiens ailleurs sur ces routes du christianisme oriental. Alors là, c'est le Grand Orient peut-être, sans mauvais jeu de mots. On pense à l'Iran par exemple, on pense à la Turquie, on pense à l'Inde, on pense à l'Éthiopie. Mais c'était impossible au fond d'englober toutes ces cultures dans une même exposition. Ce sera peut-être pour une prochaine fois.
Oui, le christianisme oriental, c'est une notion vaste. Il y a des chrétiens en Orient beaucoup bien au-delà du monde arabe. Mais il était intéressant, je pense, de parler des chrétiens du monde arabe, car ils ont une communauté de destin à partir de la conquête islamique et ensuite dans l'Empire ottoman. Et aujourd'hui, ils appartiennent tous à des nations arabes. Ils sont tous citoyens arabes. Donc c'est bien le christianisme arabe, de langue arabe et d'expression arabe, aussi dans sa pensée, que nous avons voulu montrer. Je crois que c'est une culture en elle-même, même si elle a des connexions avec la Turquie, avec l'Iran et avec l'Éthiopie. Mais il y a véritablement une culture arabe au Proche-Orient, chrétienne.
On sent très bien dans tous ces objets, et particulièrement dans la partie contemporaine, que c'est une culture qui se nourrit de beaucoup d'influences. Des influences de l'histoire, mais des influences aussi de ces mondes contemporains qui les entourent. Je pense à ces artistes qui voyagent aujourd'hui, qui bien sûr se nourrissent à toutes les sources, et peut-être aussi une influence occidentale, non ?
Oui, c'est-à-dire que l'identité ne se résume pas à la question religieuse. Certes, ces personnes sont chrétiens, mais ils sont avant tout des citoyens d'un pays, le Liban ou la Syrie. Ils appartiennent à une région qui est le Moyen-Orient. Ils ont des contacts privilégiés avec l'Occident depuis toujours, de par cette religion chrétienne, mais aussi par l'éducation. Souvent, ils ont reçu une éducation dans des collèges tenus par des missionnaires venus d'Occident. Donc, c'est tout ce mélange propre au Moyen-Orient qui s'exprime aussi dans cette culture, mais elle n'est pas propre aux chrétiens. Souvent, il y a énormément de points communs avec des musulmans, des artistes musulmans, des intellectuels musulmans qui ont porté les mêmes idées. Et nous abordons la question de la Narda, la Renaissance arabe. Elle a été nourrie par des chrétiens, mais aussi par des musulmans. Et elle a porté les idées de citoyenneté et de laïcité. Chaque citoyen devait pouvoir se reconnaître dans ce monde arabe sur un pied d'égalité.
Alors je voudrais que nous parlions de deux dates maintenant. Le 18 novembre, je crois que quelque chose se passe au Petit Palais.
Oui, alors nous ouvrons au Petit Palais une salle permanente dans les collections dédiée au christianisme oriental grâce à un très généreux mécénat de la Fondation Sisley d'Ornano. Ce sera la seule salle actuellement en France dédiée au christianisme oriental. Elle réunit une collection d'icônes magnifiques, crétoises, grecques, russes, et des objets byzantins, toutes ces collections appartenant au Petit Palais.
Et nous précisons qu'après Paris à Lima, la même exposition se déplacera à partir du mois de février à Tourcoing.
Oui. L'exposition sera donc présentée en France jusqu'au mois de juin 2018 grâce à cette deuxième étape.
Raphaël Ziadeh, merci beaucoup ce matin pour être venu jusqu'à nous. Je remercie Dany Jourdeau, Anne-Catherine Lochard et Philippe Bredin pour la réalisation de cette émission. Émission que vous pouvez retrouver sur le podcast de France Culture, onglet Chrétien d'Orient. Et nous retrouvons maintenant le service protestant.